Séance du 30 janvier 2017, Conseil municipal de Bédouin. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Dans un premier temps, donc, faisant l'appel, je vous informe de l'absence de Pierre Collin qui a donné procuration donc, à Luc Reynard, de l'absence de Nathalie Reynard qui a donné pouvoir à Colette Leclerc et de l'absence d'Alain Constant qui a donné pouvoir à Gilles Bernard. Je vous propose dans un premier temps l'approbation du PV de la séance précédente, c'est-à-dire du 15 décembre 2016. Y a-t-il des observations ? S'il n'y a pas d'observation, je le soumets au vote. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie pour cette unanimité. Nous allons donc commencer la séance. Monsieur Faure est déjà dans les starting blocks. Merci de nous parler des ouvertures de crédit par anticipation, telles qu'elles sont prévues par la loi et telles que nous les reproduisons toutes les années, en début d'année, avant le vote du budget primitif. Monsieur Faure, je demanderai à Madame Trévilly de bien vouloir assurer la fonction de secrétaire de séance. Merci de votre acquiescement. Denis.
Alors, le budget sera primitif, sera voté au mois de mars 2017. Donc, cette approbation dans le cadre de la continuité du service public. Donc, l'exécutif peut, entre le 1er janvier 2017 et le vote du budget, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sous réserve d'une autorisation préalable de l'organe délibérant, dans la limite du quart des crédits ouverts en investissement au budget de l'exercice précédent, conformément à l'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Afin de permettre de réaliser des travaux et de procéder à des acquisitions dont la mise en œuvre ne peut être différée, il est proposé l'ouverture anticipée des crédits comme suit. Crédit ouvert en investissement 2016, chapitre 16, 3 027 864. Moins 441 826 de reste à réaliser, égale 2 586 000. Les 25% de ces 2 586 000 nous donnent 646 509. Et nous ouvrons par anticipation 398 900 euros. Donc, ventilés ainsi qu'il suit. Travaux divers bâtiments, 30 000. Ventilation hôtel de ville, 1 300. Maison de santé, 2 000. Acquisition mobilier, 7 000. Logiciel informatique matériel, 9 002, 15 006, 8 000. Alors après, donc, aménagement, voirie, réseau d'hiver, 28 000. 50 000, 15 000, 56 500 pour la vidéo protection. Extension du réseau des ferrailles, 15 000. Ensuite, études préalables, alignement chalet Reynard, 5 000. Acquisition foncière, 50 000. Réhabilitation petit patrimoine, restauration monument aux morts, 6 000. Mobilier religieux, 15 000. Boulodrome honoraire, 32 300. Salle des sports honoraire, 60 000. Total, donc, 388 900. Donc, vu l'article 1612-1 du Code général des collectivités, vu les crédits, considérant la nécessité de procéder à l'ouverture de crédits permettant la réalisation de ces investissements, il demande au Conseil d'autoriser l'ouverture de crédits anticipés et de dire que les crédits d'investissement précités seront inscrits au budget primitif 2017.
Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions particulières ?
De préalable d'un
humain
chalet Reynard.
Oui. Alors, il s'agit d'une récupération. récupération par la commune de Bédouin d'une partie du terrain qui s'étend devant le chalet Reynard qui appartenait au département. Puisque le département, d'une manière générale, possède une bande de 25 mètres à peu près partout au niveau de la route. Et là, il se trouve que cette bande de terrain allait pratiquement... Mais, plus loin que le milieu de la terrasse actuelle de M. Chacon. Donc on en avait discuté avec le département qui ne voyait pas intérêt à conserver cette bande de terrain. Donc on s'est rendu sur place. Elle a été ramenée pratiquement jusqu'à l'extrémité de la séance de monsieur, de la terrasse pardon, de M. Chacon. Cette terrasse déborde encore un petit peu tout de même sur la partie départementale. Et donc nous prenons en charge, bien entendu, les honoraires, géomètres, l'acte, etc., etc. Donc c'est une...
Le but de récupérer ce...
Le but, c'est au moins de se rendre maître et de pouvoir intervenir d'une manière plus facile. Par exemple, si on est appelé, nous, à faire des travaux ou autre, que ce soit propriété de la commune. Quoi. Plutôt que d'être propriété du département, où c'est toujours dommageable que d'avoir à appeler l'un pour intervenir chez l'autre réciproquement.
Parce que là, comment on est au sujet de la terrasse du chalet Reynard?
Alors, pour le moment, la terrasse du chalet Reynard, elle était presque de façon quasi exclusive dans le département. Donc, elle va être soumise, comme les autres terrasses, à perception. Et pour le moment, il n'y avait rien de bien établi. Parce que ce qui est compliqué au niveau du chalet Reynard, c'est que c'est un bail, mais qui n'est pas le même bail que les chalets. Ça, on le savait. Mais ce qui est vrai aussi... C'est que depuis le premier chalet Reynard initial, il a eu tendance à avancer vers la route d'une manière, disons, un peu désordonnée, en termes d'urbanisme.
Ou très ordonnée.
Donc c'est pour cette raison, là, on prend le terrain. Donc on va mettre toutes ces choses-là en règle, en sachant qu'on se trouve en présence de certains bâtiments, mais qui... Ça date depuis un certain temps, pour certains il y a peut-être prescription, on est au-delà des 30 ans, mais qui n'apparaissait pas sur le permis initial.
Cette somme correspond à quoi ?
Correspond donc aux honoraires des géomètres, aux relevés, aux bornages. Attends, on est toujours dans les projets là. Je ne prétends pas que ce soit 5000 euros, j'espère que ce sera moins, mais donc de manière à pouvoir effectuer... toutes ces démarches et ensuite faire le transfert de propriété à la commune, avec le département qui est d'accord, on prévoit cet investissement.
En fait, c'est une mise en conformité
avec la réalité de terrain.
C'est-à-dire que lorsqu'il a agrandi sa terrasse, plusieurs fois, on n'avait même pas notre mot à dire, puisque ce n'était pas chez nous.
Exactement. Oui.
Donc l'étable qui met en bas, là.
Mais là, c'est ce que je dis, là, maintenant, ça va être pratiquement chez nous.
C'est ici aussi.
Oui, c'est quand je dis l'extrémité de la terrasse, je parle de l'extrémité de la terrasse
ça
basse.
Ça va faire une ligne droite du transformateur, qui est à droite, et ce qui va couper, en fait, tout l'arrondi.
Parce que l'arrondi
sur le cadastre, il est à peu près comme à la fontaine de la Grâce, c'est-à-dire il est vraiment au fond de la combe. Et au fur et à mesure que tout a été remblayé, là, en fait, la route a avancé vers le local poubelle maintenant, on va dire. Parce que l'érosion, moi je pense qu'il y a un moment où la combe, à cet endroit-là, si vous regardez les photos, vous êtes peut-être de là depuis longtemps, donc vous voyez bien que la combe a été le parking a gagné sur la combe.
Oui.
Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, tout le monde a avancé, et le chalet Reynard a avancé sans demander d'autorisation ou une autorisation verbale à différentes autorités édiles de la commune, point final. Il n'y a pas eu de permis depuis l'autorisation initiale. Donc on essaye de régulariser, ne serait-ce que pour les histoires d'assurance aussi, avec une terrasse qui est sur un domaine qui n'est pas donné à bail à personne, puisque le département ne perçoit pas non plus d'occupation de l'espace public pour cet endroit-là.
D'autres questions? Je le mets aux voix. Des oppositions? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. Madame Leclerc, ouverture de crédit par anticipation au budget annexe camping, piscine, tennis, s'il vous plaît.
Oui, alors c'est le même exercice que précédemment. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer ou engager l'année 2017 avec des travaux, pouvoir les faire avant le vote du budget, on vote des ouvertures de crédit par anticipation. Donc pour le camping aussi, jusqu'à concurrence d'un plafond de 25% des précédents investissements. Donc on vote pour 20 000 euros de crédit ouvert. Donc il y a un raccordement puisque vous savez qu'on a acheté un mobilhome qui sera installé à côté des petites habitations qui existent déjà. Donc pour raccorder ce mobilhome, puisqu'on ne peut plus le raccorder à l'ancienne ligne qu'il y avait précédemment, on est obligé de faire arriver une nouvelle ligne. On en profite évidemment pour ne pas faire une ligne pour un seul mobilhome. Peut-être dans l'avenir, on aura besoin d'acheter un autre ou d'autres. Donc on fait un raccordement plus important. Puis il y a des petits travaux, une reprise de terrasse d'une des habitations et un peu de mobilier. Donc on vote une ouverture de crédit pour 20 000 euros. Alors vu l'article 16-12-1 du Code général des collectivités territoriales, vu les crédits inscrits au budget annexe camping, piscine, tennis 2016, ainsi que les différentes décisions modificatives votées au cours de l'exercice, considérant la nécessité de procéder à l'ouverture de crédit permettant la réalisation d'investissements avant le vote du budget 2017, considérant les opérations concernées qui pourraient donner lieu à des engagements et à des mandatements préalablement au vote du budget, et sans tenir compte des restes à réaliser repris sur l'exercice 2017, j'ai demandé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture de crédits anticipés sur le budget annexe camping piscine tennis 2017 à hauteur de 20 000 euros avant le vote du budget primitif. Je veux dire que les crédits d'investissement précités seront inscrits au budget 2017.
Très bien. Des questions là-dessus? Donc en fait on fait le renforcement global de tout l'eau du camping. Bien, je soumets au vote des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Je vous présente le troisième point, le budget annexe de l'exploitation forestière, donc toujours ouverture de crédit par anticipation. Nous avions un investissement en 2016 73 000 euros, ce qui fait que le plafond donc est à 18 250 euros. Je vous propose donc d'utiliser ce plafond pour faire une ouverture anticipée concernant la restauration du jas de Perrache. Nous avons à réhabiliter le toit, faire différents travaux de petite maçonnerie. Donc voilà, ce qui nous permettra justement de le faire assez rapidement. On procédera à une consultation d'entreprise. Éventuellement, on complétera par le budget primitif, puisque vous avez bien compris que le facteur limitant, c'est l'investissement de l'année précédente, auquel on enlève le cas échéant des emprunts quand on en a. Voilà. Des questions là-dessus? Très bien. Je le soumets au vote. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 4. Versement anticipé de subvention pour la MJC et le Racing Club de Bédouin.
Monsieur Pouillard. De début d'année, permettre le versement anticipé de subvention pour la MJC et la RCB, les grosses subventions et la réalité des problèmes de trésorerie. La collectivité sera appelée à voter le prochain budget primitif courant du mois de mars 2017. Depuis plusieurs années, la commune de Bédouin décide de procéder au paiement mensualisé de certaines subventions au profit d'associations dont l'action et les charges annualisées le nécessitent. Aussi, dans l'attente de l'adoption du budget 2017 et des subventions octroyées aux organismes de droit privé pour permettre à la Maison des Jeunes et de la Culture, les MJC, et au Racing Club de Bédouin d'assurer une continuité dans leur fonctionnement. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser à procéder au versement de subventions mensualisées au profit des associations comme suit. 1 000 euros mensuels pour les MJC, soit 3 000 euros pour les trois premiers mois de l'année 2017. 400 euros pour la MJC dans le cadre de la subvention spécifique versée pour l'ERIC, soit 1 200 euros pour le premier trimestre 2017. 1 200 euros mensuels pour le RCB, soit 3 600 euros pour les trois premiers mois de l'année 2017. Ces versements seront éventuellement réévalués à l'occasion de l'attribution des subventions aux organismes de droit privé. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le versement anticipé de subventions au profit de la MJC pour un montant de 4 200 euros et au profit du RCB à hauteur de 3 600 euros. De dire que les crédits seront inscrits au budget principal 2017 à l'article 65-74.
Très bien. Des questions particulières là-dessus ? Bien, je le soumets donc au voix. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 5, versement anticipé de subvention pour l'aide à l'installation de médecins. Monsieur Faure, s'il vous plaît.
Oui. Donc, cette approbation qui vous est soumise l'a été déjà l'année dernière pour les trois mêmes médecins. Donc, il s'agit de prévoir les dépenses pour l'année. Donc, le 22 septembre 2015 et demi. Ah oui, le conseil municipal a autorisé l'octroi d'une aide à l'installation de 10 000 euros au profit des docteurs Hans Berger, Gubert et Casegas. Conformément aux termes de ces délibérations, il a été prévu pour l'exercice 2017 une subvention de 3 735 euros pour le docteur Hans Berger, 4 980 au profit du docteur Gubert et 4 980 également pour le docteur Casegas. Chacune de ces aides sera versée mensuellement. Dans l'attente du vote du budget primitif courant mars 2017, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement mensuel de 415 euros au profit des docteurs Hans Berger, Gubert et Casegas. Vu le CGCT, vu les conventions d'aide à l'installation, il est demandé au conseil d'approuver le versement anticipé des subventions au profit des docteurs Hans Berger, Gubert et Casegas, d'un montant mensuel de 415 euros, soit 1 245 euros, représentant une dépense trimestrielle totale de 3 735 euros, et de dire que les crédits seront inscrits au budget principal 2017 à l'article 6574.
Très bien. Des questions particulières ? Simplement, vous remarquerez, mais avant que vous me le demandiez, je vous le dis, que pour le docteur Lucie Asberger, la somme est moindre, mais ça correspond au fait qu'étant arrivé avant les deux autres, elle a eu le versement et que celui-ci ne courra pas jusqu'à la fin de l'année, mais simplement au mois de...
Jusqu'au mois d'octobre.
Au mois d'octobre. Voilà. Très bien. Je le soumets au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Bien, donc nous avons terminé pour les versements anticipés et autres. Passons maintenant aux décisions proprement dites. Monsieur Petit, vous nous proposez une attribution d'une subvention au comité des œuvres sociales du personnel de la mairie.
Oui, monsieur le maire,
proposez.
J'avais proposé la même chose le 1er février 2016. Donc, nous avions voté une subvention de 180 euros par agent qui était adhérent actif au COS. Donc, nous nous proposons de refaire la même chose, sachant que cette année, nous avions versé en 2016 une subvention de 8 300 euros pour 46 agents adhérents. Cette année, le montant de la cotisation s'élève à 197,28 euros. Et il s'est levé à 192,28 €, il a été réévalué à 200,45 €. Et nous proposons de fournir à nouveau 180 euros par agent à jour de sa cotisation au COS. Donc dans le cas où l'association compterait plus de 46 adhérents au 28 février parmi les agents actifs, une seconde subvention pourra être sollicitée. vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 portant droit et obligation des fonctionnaires, vu la loi 2007-209 du 9 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, vu l'article L2321-2 du Code général des collectivités territoriales, vu les statuts du comité des œuvres sociales du personnel de la mairie de Bédouin, vu la demande de subvention présentée par le COS et demandée au conseil municipal d'allouer au comité des œuvres sociales du personnel de la mairie de Bédouin une subvention à hauteur de 180 € par agent pour l'adhésion de ses membres auprès du CNAS dans la limite de 46, de dire que les sommes inhérentes à cette dépense seront inscrites au budget prévisionnel 2017 de la commune sur les crédits prévus à l'article budgétaire 65-74 de la section de fonctionnement et d'autoriser le versement de la subvention sur présentation du tableau des adhérents à jour de leur cotisation au 1er mars 2017. Le COS ayant tenu aujourd'hui à 17h30 son assemblée générale annuelle.
Très bien. Des questions là-dessus ? Bon, je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le marché aux fleurs. Pardon. Oui, je vous en prie. Vous remercions de nous remercier. Donc, on va s'arrêter là. Bien, donc, Monsieur Ribas, parlez-nous des tarifs du marché aux fleurs, s'il vous plaît.
Le marché aux fleurs, ça sera la troisième année. La première année, nous avions fait gratuit. La deuxième année, on avait voté le 1er février 2016. Les tarifs sont échangés. Les tarifs seront de 0 à 5 mètres de 10 €, de 5 à 10 mètres 15 €, de 10 à 15 mètres 20 €. Une caution de 50 € sera remise par chèque par les exposants. Les droits de place seront encaissés par la régie des foires et marchés et le règlement fera l'objet d'un arrêté municipal. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 1er février 2016, il est demandé au conseil municipal de décider de l'organisation d'un marché aux fleurs et fixer les tarifs des emplacements tels que numérés ci-dessus. D'autoriser Monsieur le maire à définir par arrêté les modalités d'organisation du marché et le contenu du règlement intérieur y afférent, ainsi que de prendre toutes mesures utiles pour sa mise en place. De maintenir ces conditions tarifaires pour les années 2017. Alors le marché, ben, ce sera comme les autres années, le samedi 22 avril.
Très bien.
Place des Frères aux Provanes. Et à 16h, le marché, ce n'est pas dans l'ordre du jour, mais le marché paysan sera aussi en place des Frères aux Provanes à partir de 16h.
Le
22 avril. Très bien. Et merci de toutes ces précisions. Bon, pour revenir au point... Au point de l'ordre du jour, y a-t-il des remarques particulières ? Non, bien, mais je le soumets aux voix. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Pour le cimetière de Bédouin, reprise des sépultures en terrain commun. Monsieur Dell'Innocenti, expliquez-nous, s'il vous plaît.
Tout à fait. Alors, monsieur le maire rappelle la procédure de reprise de la cinquantaine de sépultures en terrain commun dans le cimetière de Bédouin. Précédemment autorisé par délibération du 26 septembre 2016. Dans ce cadre, plusieurs familles se sont manifestées auprès de la police municipale pour disposer des restes de défunts, ainsi que des objets funéraires, une fois que l'exhumation aura été réalisée. Après consultation, la commune a décidé de confier à la société Fichère le soin de procéder à la reprise du terrain commun et aux travaux de creusement, réduction reliquaire et mise à l'ossuaire. Le montant a été établi à 296,62 € par corps. La famille reste libre de décider de la destination des restes du défunt, ossuaire, crémation, inhumation, et de faire appel pour ce faire à l'entreprise du pompe funèbre habilitée de son choix. Le dépositaire sera mis à disposition des familles le cas échéant, le temps nécessaire aux démarches. Donc, vu le code des collectivités locales, il demande au conseil municipal de fixer à 296,62 € par corps le tarif de reprise des sépultures sur terrain commun et d'émettre le titre des recettes correspondantes.
Très bien. Donc, si c'est une régularisation qui arrive à son terme après de nombreuses recherches et autres, l'objectif étant bien entendu de respecter autant que faire se peut les défunts justement qui se trouvaient parfois dans des lieux où ils n'avaient pas à se trouver ou parfois qui n'avaient pas ni droit ni titre, et donc là on devrait avoir clairement identifié les différentes parties du cimetière. D'accord. Mais des remarques particulières là-dessus? Bon, je le soumets donc aux voix. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. La vidéoprotection, modification d'un plan de financement et demande de subvention, Monsieur Dell'Innocenti, s'il vous plaît.
En complément du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place un dispositif d'accompagnement des collectivités, le Fonds de soutien aux forces de sécurité. Un appel à projet pour l'année 2017 a été lancé pour permettre à l'ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui en évalue la nécessité de créer ou d'étendre les systèmes de vidéoprotection, ainsi que de créer ou de moderniser des centres de supervision urbaine. L'enveloppe financière consacrée à cet appel à projet est de 4 millions d'euros. La région entend ainsi offrir aux usagers des équipements et des espaces publics des conditions de sécurité renforcées. Par délibération du 7 juillet 2016, le conseil municipal a décidé d'engager un programme d'extension de son dispositif de vidéoprotection et solliciter une subvention auprès du FIPD. Les travaux n'ayant pas débuté et la subvention n'ayant pas été accordée pour l'exercice 2016, il est proposé de renouveler la demande pour l'année 2017, de solliciter l'aide régionale et de modifier le plan de financement pour aux travaux suivants: déplacement du centre de supervision urbaine et mise en place de la fibre optique et réalisation du système radio. Donc, vous avez un montant de 47 000 euros pour la vidéoprotection, avec recette État FPPD 40%, région PACA 20% et commune 40%, pour un total de 47 000 euros. Donc, considérant l'intérêt pour la commune de procéder aux travaux de déplacement du CCSU et d'extension des caméras de vidéosurveillance, considérant que le montant total de cette opération s'élève à 47 000 euros, considérant que les travaux peuvent s'inscrire dans le cadre des opérations éligibles à un financement du FIPD ainsi que du dispositif régional de soutien aux forces de sécurité, vu le code de sécurité intérieure, vu le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, après avoir rappelé que toute modification du système devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale préalable. Il est demandé au conseil municipal de renouveler la demande de subvention de 40% auprès de M. le préfet du Vaucluse dans le cadre du FIPD 2017. Volet vidéoprotection, soit 18 000 euros pour les travaux précisés ci-dessus. De présenter le dossier de demande de subvention auprès de M. le Président de la région provinciale Alpes-Côte d'Azur et solliciter une aide de 20%, soit 9 400 euros, dans le cadre de l'appel du projet F2S. C'était au-dessus. Donc voilà, on demande l'autorisation de faire cette demande de subvention.
D'accord, oui, c'est le renouvellement d'une subvention qui n'a pas abouti dans la mesure où les fonds avaient été épuisés au niveau régional. Donc je vous propose aujourd'hui de la redéposer. Est-ce qu'il y a des questions particulières là-dessus?
Il y a toujours une opposition, hein, comme la première fois sur ce vote-là. Se rajoute là-dessus... La région qui a débloqué 4 millions d'euros au détriment, je dirais, de ses compétences, sa politique enfance et sa politique de formation. Voilà, et là, on trouve 4 millions d'euros pour installer des moyens en vidéosurveillance sur les différentes communes. Voilà, après, c'est sur la question du principe, mais j'y reviens pas, hein, sur mes raisons qui me font opposer à cette délibération.
On dirait la même chose que la dernière fois, de ne perdons pas de temps. Y a-t-il d'autres remarques? Bien. Je soumets donc aux voix des oppositions, une abstention. Je vous remercie. Demande d'aide régionale pour la restauration des monuments aux morts. Madame Leclerc, j'espère qu'on n'aura plus à réaliser.
Périodiquement, malgré tout, on restaure des monuments aux morts. Je me souviens qu'on l'avait déjà fait il y a une douzaine d'années. Donc, et cette année, bon, évidemment, ces monuments aux morts, ils sont soumis aux intempéries, donc ils se détériorent. Et on a l'opportunité, cette année, le conseil régional nous a proposé de préparer un petit dossier pour ces restaurations. Donc, on fait un dossier de demande de subvention pour engager quelques petits travaux de restauration des monuments aux morts. Le montant de la restauration s'élève à 5 092 €. Et donc la région nous financerait à 50% et la commune à 50%. Donc c'est un besoin et en même temps une opportunité. Il est demandé donc au conseil municipal de présenter un dossier de demande de subvention auprès de Monsieur le Président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et solliciter une aide financière de 50%, soit 2 546 €. D'autoriser Monsieur le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer tout document relatif à la présente délibération.
Très bien. Des questions là-dessus? Je soumets donc au vote des oppositions. Des abstentions, je vous remercie. Madame Massendès, l'action culturelle de la bibliothèque municipale, demande de subvention auprès du conseil départemental de Vaucluse.
Tout à fait. Alors, comme chaque année, nous demandons une subvention. C'est Monsieur le maire fait part à l'Assemblée qu'au titre de l'action culturelle, le conseil départemental est susceptible d'allouer une subvention à la commune pour une manifestation autour du livre de la lecture. Cette année, nous avons une formation à l'art du conte organisée par la bibliothèque municipale afin de former un groupe de bénévoles qui assurera par la suite les séances de l'heure du conte et autres manifestations et qui devraient avoir lieu le samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 au Centre culturel Hélène Adam. Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit. Les dépenses, la rémunération de l'intervenante Agnès Dumouchel, conteuse professionnelle, prestation plus déplacement, 1 100 €, autofinancement 600, communication 50, frais de réception 50 et le concert au conseil départemental 600. Voilà, total de recettes de 200. Vu le code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à solliciter l'intervention financière du conseil départemental de Vaucluse à hauteur de 600 € au titre de son action culturelle pour l'organisation de la manifestation, de donner pouvoir à Monsieur le maire pour signer tout document relatif à la présente délibération.
Très bien. Des questions particulières là-dessus? Donc je soumets au vote des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Madame Massendès, toujours une modification du règlement intérieur de la bibliothèque municipale. C'est assez bénin et subtil, mais voilà, ça doit passer à votre approbation.
Voilà. Monsieur le maire fait part à l'Assemblée qu'une réactualisation du règlement intérieur de la bibliothèque municipale est rendue nécessaire par la modification de l'article 3 du chapitre 1 concernant la tarification applicable pour les touristes de passage et faisant suite à la délibération numéro 2016-151 du 15 décembre 2016. L'intégration de l'article 7 d'une mention concernant la spécificité des prêts consentis aux collectivités en vue de la signature d'une convention entre la crèche intercommunale et la bibliothèque. L'intégration à l'article 14 du chapitre 4 du règlement intérieur d'un paragraphe rappelant l'application du principe de laïcité au sein des établissements de lecture publique. Cette mention fait suite à une recommandation de l'inspection générale des bibliothèques, IGB, de janvier 2017, qui, sur la demande de ses deux ministères de tutelle, éducation nationale, enseignement supérieur et culture, doit s'assurer que les bibliothèques soient avant tout des services publics, vecteurs de citoyenneté et de lien social, et qu'elles garantissent, grâce au principe de libre constitution des fonds, l'accès pluraliste à l'information et au savoir. L'IGB préconise de se doter à minima d'un rappel dans le règlement intérieur de l'établissement. Les autres dispositions demeurent inchangées. Il demandait au conseil municipal de modifier le règlement intérieur en intégrant les éléments ci-dessus mentionnés, de dire que les modifications interviendront une fois exécutoire la présente délibération, de donner pouvoir à monsieur le maire, etc., ou à la conseillère municipale déléguée pour signer tout document relatif à la présente délibération.
Très bien, merci. Écoutez, on remercie les deux ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur de la culture de s'être penchés sur cette question. Voilà. Y a-t-il des questions particulières dessus, au-delà? Bon, je soumets à votre approbation. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie pour cette unanimité. À nouveau, un peu en corollaire, donc la convention entre la bibliothèque municipale et la crèche intercommunale.
Alors, considérant que la bibliothèque municipale de Bédouin, service public, a pour mission l'accès à la lecture et à la culture de tous les administrés, elle s'adresse à tous et même des actions spécifiques en direction des écoles, des collectivités et des publics spécifiques, y compris les tout-petits. Outre le prêt de livres, d'autres services sont proposés aux écoles et aux collectivités, tels que des conseils techniques par des bibliothécaires professionnels, choix de livres, lecture, projets faisant appel aux livres et à la lecture. Il est ainsi proposé de maintenir le partenariat avec la crèche de Bédouin et de signer une convention avec la COV, auprès de laquelle a été transférée la structure multi-accueil depuis le 1er janvier 2017. La COV serait responsable des pertes et détériorations des livres mis en dépôt. Vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention entre l'élu délégué et la crèche intercommunale et vent tout petit.
Très bien. Donc, mais là, c'est, vous voyez, c'est l'application donc, suite au transfert d'une convention telle qu'on en a parlé au paragraphe précédent. Des questions particulières? Non, je soumets donc au vote. Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et on continue sur la crèche, Madame Roux, avec le transfert de la structure multi-accueil auprès de la COV, convention et procès verbal constatant la mise à disposition. C'est une procédure administrative.
Alors, par délibération du 27 juin 2016, le Conseil communautaire a modifié la définition de l'intérêt communautaire, entraînant le transfert au 1er janvier 2017 de tous les équipements et services de la commune en matière de petite enfance. La commune gérait la structure multi-accueil Les Vents Tout Petits, située 80 place de la Vigneronne à Bédouin. En application de l'article L5211-5-3 du Code général des collectivités territoriales, renvoyant aux dispositions des articles L1321-1 et suivants du même code, la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable au transfert de biens et d'équipements nécessaires à l'exercice d'une compétence transférée dans le cadre de l'intercommunalité, dans lequel le bénéficiaire se substitue de plein droit aux droits et obligations du propriétaire. Ce transfert donne parallèlement lieu à une évaluation par la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Cette commission statue sur le montant du transfert en prenant en compte les charges précédemment supportées par la commune, mais aussi les recettes afférentes à ces charges. Vu les statuts de la communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Venessin, la délibération 2016-083 du 7 juillet 2016 du conseil municipal qui portait approbation du transfert de personnel lié à l'extension de la définition de l'intérêt communautaire en matière de petite enfance, vu la délibération 170-16 du 12 décembre 2016 du Conseil communautaire de la COV, vu le projet de convention et de procès-verbal constatant la mise à disposition de la structure multi-accueil Les Vents Tout Petits annexée à la présente délibération, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention et le procès-verbal, constatant la mise à disposition auprès de la COV de la structure multi-accueil Les Vents Tout Petits, située 80 place de la Vigneronne à Bédouin, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et le procès-verbal annexé à la présente délibération et tous actes y afférents.
Très bien. Donc il s'agit là effectivement du transfert, dont l'acte administratif, on verra dans la délibération suivante le montant hein, de ce... de ce transfert. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à...
Pas de question, moi je ne vous pose pas juste une remarque, je me plains qu'on insiste sur le fait qu'on avait dans le projet demandé aussi à la COV de construire une crèche plus importante, hein, d'une vingtaine de places, parce que c'est vrai que celle-là aujourd'hui est très limitée et ne pourra pas accueillir plus d'enfants, donc on ne pourra pas avoir une extension de ce côté-là. C'était ça, dans le transfert. La possibilité d'augmenter nos capacités, que la COV nous construise une autre crèche sur la commune. Des terrains à notre disposition. J'aimerais qu'on insiste là-dessus et qu'on fasse passer le message au sein de l'intercommunalité.
Tout à fait. Non, monsieur, on connaît tous la capacité limitée de notre crèche. Bon, ce qui nous perturbe quand même un peu, c'est justement ces ouvertures un peu spontanées et sans véritable réflexion avec le réseau public, on va dire existant, de structures privées, hein, vu la MAM de Saint-Pierre, bon, qui est un service qui est très intéressant pour ceux qui résident sur place. Hein. On ne se place pas en termes de concurrence ni de stigmatisation vis-à-vis de nos voisins, mais il est vrai que nous aurions grandement besoin justement d'accroître notre capacité au moins d'une dizaine de places. Et donc c'est un projet effectivement sur lequel je suis
revenu plusieurs fois. Des logements qui vont arriver, etc.
Tout à fait, et puis d'une croissance naturelle de la commune.
On risque d'être à un moment donné coincé.
Très juste. Oui. Bien, d'autres remarques ? Oui.
Oui, nous n'étions pas d'accord lorsque ce transfert a été fait à l'Interco, donc nous allons nous abstenir sur le transfert de la structure pour les mêmes raisons.
Très bien. Pareil, on relance pas la polémique. Je vous rappelle quand même qu'on étant dans la situation comme Malocène, d'ailleurs, et Carpentras, avec ces trois crèches, d'avoir nous-mêmes, les communes, la charge du fonctionnement, parce qu'une crèche, c'est déficitaire, vous allez le voir à la ligne suivante. On avait quand même la double peine, à savoir qu'on payait notre déficit à nous, et contribuer collectivement au déficit de toutes les autres crèches. Mais voilà. Voilà. Non, mais je le rappelle, après, c'est vrai que tout...
Il n'y aurait pas eu une compensation financière de la COV, nous gardions la maîtrise et la gestion, simplement. Pour qu'on soit sur un marqué d'égalité que les autres communes.
Eh oui, mais dans les autres communes, puisque le service avait été pris, on pouvait difficilement imaginer qu'on nous traite de façon différente.
Le choix a été fait, on n'était pas d'accord. On reste dans notre logique.
D'accord.
Ça tient, tout simplement.
Très bien. Alors donc, je note 5 abstentions. Pas des oppositions. Donc, faites le compte du reste. Merci. Alors, l'attribution de compensation, transfert de charge, petit empan. C'est là, donc, je vous l'avais introduit, donc nous allons le développer. Alors, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par des délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Et donc, je vous rappelle qu'il y a une commission qui est chargée justement de collecter toutes les données sur plusieurs exercices, de faire des moyennes, de savoir quel est le véritable coût pour la commune transférante, donc du service qui est transféré. Et que vous remarquerez aussi, puisqu'on fait un peu d'éducation civique, que là, on est dans les décisions du conseil intercommunal qui statue à la majorité des 2/3 et non pas à la majorité simple. Et ce sont les 2/3 donc, qui représentent soit les 2/3 des communes et moins de 50% de la population, soit les 2/3 de la population sans qu'il y ait nécessité d'avoir la moitié des communes. Et c'est une règle un peu particulière. Donc dans sa séance du 10 novembre, la CLECT donc a adopté un rapport sur l'évaluation des charges transférées suite au transfert des structures multi-accueil de Bedouin, Carpentras et Malocène. Ce rapport arrête le montant des charges transférées et propose des modalités d'évolution dans le temps liées au cycle d'amortissement des emprunts transférés et à la prise en compte d'une charge particulière d'équipement pour l'année 2017 pour la commune de Carpentras, hors travaux mis en accessibilité. Et pour Bédouin, le montant du transfert de compétences de la crèche Les Ventoux Petits est de 72 967 euros. Donc ce transfert restera constant, c'est toujours la règle dans les charges transférées, et viendra donc en déduction de l'attribution de compensation versée chaque année à la commune. La méthode retenue, c'est celle de la moyenne des trois comptes administratifs, et comme je vous le disais tout à l'heure. Donc vu le rapport de la CLECT, donc vu l'évaluation du conseil communautaire, je vous propose d'approuver l'évaluation du transfert de charges et donc d'autoriser finalement la retenue de 72 967 euros sur les dotations de compensation qui nous sont versées par l'Interco, et donc dire que cette déduction sera opérée à compter du 1er janvier, date du transfert effectif de la compétence. Voilà. Donc ça signifie que le coût va être figé dans le temps. Et c'est la même procédure qu'on a eue, même sans inverse, quand on a transféré, mais par obligation, hein, la taxe professionnelle au moment de la création de l'intercommunalité. Bien, des questions particulières. Oui,
pardon. Ce coût a été fixé. Est-ce que c'est le coût réel? Est-ce que les coûts ont été pris?
Mais on a pris les comptes administratifs, c'est-à-dire les dépenses réelles et les dépenses sur 3 ans, tant pour le personnel que pour les consommables, tous les domaines. Mais ça rejoint un petit peu les comptes d'exploitation que l'on transmet à la caisse d'allocation familiale et à la MSA, puisqu'ils nous servent des prestations. Donc on fait le coût de revient de la structure. Sur 3 ans, on fait une moyenne et donc on le fige là-dessus.
On est parti pour plusieurs années.
Ah, mais c'est
vaut mieux que.
Et oui, oui.
Pour le couvrir, voilà, tout simplement.
Et alors,
il n'y a pas de surprise. Elle est bonne, mais c'est mauvaise.
Non, mais enfin, on savait de toute façon que le service était déficitaire par excellence. Et ceci dit, bon. Je le dis malgré tout, compte tenu des nouvelles règles de fonctionnement des crèches, où vous vous souvenez, on a été appelé à prendre plusieurs décisions, où on fonctionne maintenant, par exemple, au temps réel. À partir du moment où on fonctionne maintenant avec certains moments de nourriture gratuits. À partir du moment où on fonctionne maintenant en fournissant les couches. C'est un coût de fonctionnement qui va aller augmentant. Avec peut-être d'autres évolutions que l'on ne connaît pas, dont on n'a pas parlé encore. Voilà. Enfin, à ce jour, sur les 3 derniers comptes administratifs, on en est là.
Une remarque.
Oui, peut-être, vas-y.
On s'en sort bien sur ces coûts-là, sur la moyenne des 3 dernières années. Parce qu'on avait une crèche qui était relativement chère, pour le dire, notamment au niveau du personnel, et qui avait un coût relativement excessif. Et sur ce montant-là, 72 967, on s'en sort bien. Sur la moyenne des 3 dernières années. Au niveau des...
Et je tiens à remercier l'opiniâtreté de notre DGS et de sa collaboratrice qui se sont battus point par point pour faire valoir certains coûts, parce que c'est quand même une drôle d'usine à gaz, quoi. C'est affaire. Voilà.
Si tout le monde s'est bien battu, on va être d'accord.
Très bien. Vous aimez la bagarre. Bien, je le propose donc à votre approbation. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, le schéma de mutualisation des services, eh bien, les services avec l'intercommunalité, eh bien, on en a fait la liste d'ailleurs, je pense que certains d'entre vous sont venus le consulter et autres. Il y a 25 domaines dans lesquels nous faisons de la mutualisation avec l'intercommunalité. Et donc, la loi du 16 décembre 2010, donc, qui a décidé la création du schéma de mutualisation des services, donc nous dit qu'afin d'assurer une meilleure organisation des services dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'EPCI à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'EPCI à fiscalité propre et les communes membres. Donc il y a un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat, que ce projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées sur leurs dépenses de fonctionnement. Considérant que le Conseil des maires a donné pour mission au service de préparer, sous le contrôle d'un comité de pilotage d'élus constitué à cet effet et en association avec les responsables des services municipaux de l'ensemble des communes membres, un schéma de mutualisation des services dont les principaux objectifs sont proximité avec les communes et les habitants, qui est quand même l'axe majeur de la mandature, efficacité et qualité du service rendu auprès des usagers, lisibilité de l'action publique, tant auprès des communes que des usagers, le développement d'une culture partagée entre communes et communautés et rationalisation des moyens dans le contexte de raréfaction des ressources financières. Donc, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 12 décembre, vu le projet de schéma de mutualisation des services entre la COV et les communes membres, il vous est demandé d'approuver le projet de mutualisation des services. Alors, simplement à titre d'information, on a fait le recensement qui n'est certainement pas exhaustif. Quelques exemples qui sont significatifs, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Lorsque l'on a une aide technique pour nous aider, par exemple, à travailler sur la réfection de l'église ou sur l'évaluation des éclairages publics. Sur les actions éducatives, lorsqu'ils interviennent pendant le temps scolaire. Sur les actions en faveur de l'agriculture, c'est la prise en charge, par exemple, de prévis grêle ou la convention d'intervention foncière avec la SAFER. Concernant les archives aussi, qui sont entretenues, classées et donc soignées par un personnel de l'Interco, M. Cusard, là, qui est d'une grande technicité. Donc pour ce qui est la commande publique aussi, vous savez qu'on va de plus en plus vers la mutualisation, des groupements de commandes. Par exemple, on a interrompu tous les contrats, enfin tous, pratiquement tous les contrats d'entretien et de maintenance que nous avions, nous, en tant que commune, par exemple pour les climatisations, pour les chaudières et autres, et donc on va faire des appels d'offres qui sont beaucoup plus importants, où on pense que la règle du nombre nous aidera justement à bénéficier de meilleurs tarifs. Pour ce qui est la communication, on construit actuellement, en ce moment, vous le savez, un site internet. Il y a du travail en réseau aussi. La cartographie, vous savez qu'on bénéficie donc à la demande de tout plan qui sont en possession du SIG, Service intercommunal de géographie, c'est ça ? Le SIG, oui. Voilà, et ça nous aide beaucoup pour les PLU et autres. Sinon, je ne sais pas comment on le ferait. L'informatique aussi. Enfin, nous ne sommes pas concernés, mais pour certaines communes, il y a une maintenance qui est assurée par l'Interco. Ensuite, la culture et les animations patrimoniales. Les bibliothèques sont en réseau. Pour la culture aussi et les animations, eh bien, on va avoir des interventions pour la fête de la forêt. On en reparlera tout à l'heure. Qui sont prises en charge par la COV. Ce sont aussi les interventions, les visites en scène et toutes les manifestations estivales. L'environnement, l'accompagnement sur des problèmes énergétiques. Vous savez qu'il y a un cabinet, ou tout du moins un auditeur qui peut vous renseigner au sein de la COV sur le choix des différents chauffages, sur des coûts de revient, sur les aides. Peut-être on ne diffuse pas suffisamment justement cette possibilité, puisqu'on est tous soucieux de ce domaine. L'aide aux communes pour l'émergence des projets de logement. Donc il y a maintenant, vous le savez, avec la région, l'établissement public foncier régional. Et donc c'est en train de changer. On travaillait à l'époque avec des conventions communales. On travaille maintenant avec des conventions au niveau de l'Interco. C'est-à-dire que dans le pire des cas, s'il y avait une défaillance de paiement ou autre, le premier à recevoir une demande de cautionnement ou autre, ce sera l'Interco et ce sera plus. Donc l'aide aux communes et marins, l'instruction des autorisations du droit du sol. Alors là, bon, il est vrai aussi que l'OMP a dû proportion le nombre de permis ou de documents d'urbanisme qui sont instruits. Il y a le financement par le CISPD. Il y a mise à disposition de matériels et de moyens, et quand on a des prêts gratuits pour les événements, les réfections de chaussées ambicouches, des élagages parfois, là c'est gratuit. Alors les réfections de chaussées, ne pas confondre avec ce que nous avons en dotation que nous devons utiliser toutes les années, et comme l'affectation que nous faisons pour certains consommables. Enfin, vous voyez, c'est tout de même assez important, et tout ceci, hein, aux quelques exceptions que je vous ai signalées, c'est du financement par le collectif, et a priori, donc on va plutôt dans ce sens. Donc voilà, alors que avec ce schéma de projet de mutualisation des services, donc il m'est demandé de vous le faire approuver. Donc l'accord, bien sûr, là, est dans la même situation en tant que structure intercommunale.
Qu'il y a des questions. Je voudrais faire une remarque sur la tendance sordide pour soumis hein, à la raréfaction des ressources.
Mais oui.
Ces difficultés. Donc la tendance est aussi à faire payer de plus en plus les communes sur un certain nombre de services. Ouais. Je ferai juste l'exemple des éducateurs sportifs et culturels qui interviennent pendant le temps scolaire, voire pendant les TAP, sur nos communes. Avant ils étaient gratuits, aujourd'hui ils deviennent de plus en plus payants. C'est une tendance pas négligée dans ce schéma de mutualisation.
Et oui, c'est vrai que je crois que tout le monde est soumis. De toute façon, on a trois ressources dans l'État, on a les départements et les régions, et tout le monde va dans le même sens. Et quelle que soit l'entrée que l'on prenne, eh bien. Oui, la COV, c'est quand même 4 millions d'euros de dotation qui ont été supprimés depuis le début, sur un budget de 42. Donc à un moment donné, ça impacte nécessairement, mais c'est sur les investissements que ça joue. Hein. Le fonctionnement, vous le comprimez jusqu'à un certain point, nous c'est ce que nous faisons, on en parlait encore il y a peu de temps, mais une fois qu'on a atteint un certain niveau, on ne sait plus faire. Quoi. Les voitures, il leur faudra toujours de l'essence pour rouler, et bon, même si on demande à ce qu'elles roulent moins ou de façon optimisée, il en faudra toujours. Quoi. Donc on a ça. Quoi. Et nous, de la même manière, vous l'avez certainement entendu dans mon intervention lors des vœux, notre dotation d'une année sur l'autre a baissé de 85 000 euros, je vous passe les bricoles. 85 000 euros, ça vous fait deux postes chargés ou ça vous fait un investissement de 85 000 euros. Et c'est pas... Très bien. Concernant ce schéma de mutualisation, donc je le soumets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors l'opposition au PLU, le plan local d'urbanisme, hein, vous l'avez vu, à des moments donnés, il est des points sur lesquels on ne peut pas discuter. Mais c'est le cas par exemple de la loi NOTRe pour le transfert des offices du tourisme intercommunaux. Par contre, la tendance est donc, disons, une des conséquences de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui a quand même bouleversé singulièrement le paysage de l'urbanisme et des autorisations des sols. Donc l'objectif est de généraliser les PLU intercommunaux sur le territoire national et il est prévu un transfert automatique de cette compétence à l'ensemble des communautés d'agglomération et de communes au terme d'un délai de 3 ans après la publication de la dite loi. Autrement dit, avant le 24 mars 2017, si on est dans la tacite approbation, si l'on ne se manifeste pas, la chose est avalisée. Toutefois, justement, la loi prévoit des modalités de dérogation à ce transfert. Si dans les 3 mois précédant le terme du délai de 3 ans mentionné ci-avant, soit entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2007, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent par délibération, alors ce transfert de compétences n'a pas lieu, ce qui signifie, mais je ne peux pas vous dire jusqu'à quand, que la commune gardera la mainmise sur son PLU. Donc, pour la COV, cela nécessite que 7 communes représentant 14 052 habitants s'y opposent. Alors, sachez que les maires sont unanimes là-dessus. Ça nous arrive parfois aussi. Voilà. Donc, les habitants expriment le souhait du maintien de cette proximité. Et donc, grand nombre de lois dépossèdent les communes de ces prérogatives au motif d'une efficacité qui reste souvent approuvée ou au risque de vider la commune de sa substance. Donc, il faut faire en sorte de maintenir les services à proximité des habitants et sur le territoire. Nous avions déjà, nous, en tant qu'intercommunalité, voté le 7 juillet 2014 notre opposition à ce principe. Donc, vu l'article 136 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014, la loi pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, la fameuse loi Allure, prévoyant transfert de la compétence PLU à la communauté d'agglomération au terme d'un délai de 3 ans après la promulgation de la loi, vu la possibilité de s'opposer à ce transfert dans les 3 mois précédant la date du transfert automatique, vu la motion votée par le Conseil de communauté du 7 juillet 2014, donc affirmant qu'il faut aller dans ce sens, considérant la volonté de la commune de conserver ses prérogatives, notamment en matière d'urbanisme, il est demandé au Conseil municipal de décider de s'opposer au PLUI. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que j'ai été assez clair ?
Oui, on est assez d'accord avec la position des maires. Et ça veut dire aussi que lorsqu'il y a des lois qui sont contraires au bon sens, on peut s'y opposer.
Contraire, c'est pas contraire au bon sens, parce que le bon sens, on dit que c'est la chose du monde qui est la plus répandue, mais la moins bien partagée. C'est ça.
Oui, mais par exemple, chaque commune a fait un PADD.
Oui.
Donc si on fait un PLU unifié, à quoi a servi le PADD?
Oui.
Si ce n'est à dépenser de l'argent.
Bien sûr. Non, et le SCOT. Oui. On a le SCOT, donc, qui reste...
Oui. Qui prend plusieurs intercommunalités.
Qui nous cadre un peu.
Oui. Ouais. Non, mais
oui.
Je veux dire...
Oui, bien sûr.
Il faut arrêter.
Oui.
Parce que le PADD, c'est pas facile de le faire, ça coûte de l'argent. Si ensuite, derrière, il y a une loi qui passe outre ce qui a été décidé au sein du conseil municipal pour l'avenir de la commune, après chaque commune a une vision. Chaque conseil municipal a une vision qui peut être différente d'un village à l'autre, mais après, on ne peut pas obliger à ce que tout le monde.
Oui, mais faut-il encore que le législateur ait prévu une possibilité d'opposition ? Ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'OTI, l'Office du tourisme intercommunal, content ou pas raisonnable, au 1er janvier 2017, ça tombe dans le régime commun.
Je vais faire un peu de la fiction. Aujourd'hui, il y a possibilité de s'opposer. Peut-être que demain, il n'y aura pas de possibilité. Je pense que les maires monteront quand même au créneau pour s'opposer.
Oui.
Donc, ça veut dire que même si quelquefois, par rapport à la nôtre, à l'intégration des hôtels, des crèches et tout, même si on nous l'a imposé, il y a quand même la volonté des élus que si qui comptent à un moment donné pour s'opposer à des choses.
Oui, si le sujet, je suis d'accord avec toi, si les sujets sont suffisamment motivants et fédérateurs, là on est quand même sur des fondamentaux. Le droit du sol dans les communes. Mais ensuite, on a eu des domaines dans les... J'ai plus souvenir. Bon, il arrive parfois que l'on prenne des motions...
Ce n'est pas fédérateur que c'est inutile de s'y opposer. Il y a quelquefois, c'est très bien dans les intercommunalités, il y a des décisions qui sont prises qui vont à l'encontre de l'intérêt de et les maires le savent bien.
Oui, ou alors parfois...
Qui coûtent de l'argent et qui sont inefficaces dans le temps. Si les intercommunalités marchaient bien, ça ne se fait pas.
dans le rapport de la Cour des comptes, ce que ça coûte par rapport au service rendu. Au départ, c'était à la sortie.
Déjà, la première question à se poser, c'est peut-être celle-là. Quelle était la pertinence? Même ce qui est vrai quand même, qu'on ne peut nier, c'est que collectivement, on pèse toujours plus lourd. Par exemple, quand je parle de l'intercommunalité, il est clair que si on n'avait pas l'interco, je vous ai fait l'énoncé, voilà, à des moments donnés, des choses qu'on ne pouvait pas tenir. Mais après, c'est pas, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et après, c'est dans différentes nuances de gris, comme l'écrit Gosserté. Donc on avait approuvé ça, vous
avez... Non, on n'a pas approuvé.
Je vous demande, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Petit, vous allez nous parler des acquisitions de biens vacants et sans maître. Là aussi, c'est un chantier sur lequel on se penche depuis de nombreux mois. N'ose pas dire des années, mais c'est peut-être ça. Et je vous remercie de le faire avec tous ceux qui y participent. Et donc, c'est l'État, donc dans sa grande générosité, qui nous rétrocède des biens, par contre, qui étaient bien identifiés en tant que propriétaires, mais dont ils n'ont pas l'usage, et pour lesquels on peut se demander un peu pourquoi ils se sont trouvés à un moment donné propriétaires de ces parcelles qui sont un peu à des endroits compliqués du territoire.
C'est quelque chose qui ne va pas nous coûter cher. Contrairement à des fois à ce qu'on nous reproche, j'achète des terrains chers, là je les achète pas chers. La loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a créé une catégorie de biens vacants et sans maître, ce n'est pas et pour lesquels les taxes, depuis plus de 3 ans, n'ont pas été acquittées ou n'ont pas été acquittées par un tiers. En 2016, un recensement partiel a été effectué par la préfecture. Et donc, 3 parcelles ont été identifiées. Donc, la C1540 au Bapati, la E545 à la Rouillère et la G39 à l'Oratoire. L'arrêté préfectoral du 12 mai 2016 a été affiché en mairie et sur les immeubles. Ces biens immobiliers reviennent à la commune de Bédouin à titre gratuit. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2241-1, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L1123-1-3 et L1123-4, vu le Code civil, notamment l'article 1317, vu l'arrêté préfectoral du 12 mai 2016 fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître dans les communes du Vaucluse, considérant le courrier du préfet de Vaucluse du 12 décembre 2016 notifiant la vacance présumée des parcelles C540, E545 et G39, considérant qu'aucun ayant droit ne s'est manifesté, considérant que le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière Avignon 1 n'a relevé aucune inscription pour les biens objets des présentes, il est demandé au conseil municipal d'exercer ses droits en application des dispositions des articles L1123-1-3 et L1123-4 du CG3P, et d'autoriser M. le maire à signer tout acte relatif à l'incorporation de ces biens vacants. Si quelqu'un veut voir les cartes, ils sont ici en couleur bleue. Vous avez vu ? Faites-le bien.
Bien. Y a-t-il des oppositions à cette prise de propriété ? Donc je le soumets aux voix, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Je vais vous parler maintenant des chantiers de bénévoles pour le jas de la Couanche et de Combe-Fiole, des demandes de subventions pour des chantiers avec la part CME. Je vous propose d'entreprendre 2 chantiers de bénévoles avec la part CME pour toujours poursuivre cette restauration de notre patrimoine pastoral. Le premier concerne le jas de la Couanche. Alors le jas de la Couanche, il est utilisé en partie, en toute petite partie d'ailleurs, pour abriter les randonneurs. C'est une des plus grandes bergeries du Ventoux, mais quant à la refaire complètement, on serait sur des sommes qui avoisineraient les 6 chiffres, je n'ose pas dire 7, mais pratiquement. Donc c'est une grande bergerie donc, où il y a une citerne en contrebas. Ce serait restauration de l'ensemble, mise en sécurité des toitures des murs, ainsi que la réfection de la souche de la cheminée de la partie qui est encore usitée de nos jours, c'est l'abri ce qu'on appelle l'abri du berger. La toiture de la citerne sera également reprise et un système de récupération des eaux de pluie sera installé en espérant, entre parenthèses, qu'on le respecte davantage que ce qui a été fait pour la bergerie de Pierrot où elle s'est fait démolir allègrement cette belle installation dans des délais très courts. Alors donc pour la première, l'opération est de 20 136,18 €. Ce serait donc un financement... qui se pourrait par un chantier, donc ce serait un chantier de jeunes. Donc dans les recettes, il y aurait participation 990 € de la part des participants, puisque ce sont des jeunes qui viennent sur des séjours internationaux, mais qui donc sont encadrés par la part. La direction régionale de la jeunesse, de le sport et de la cohésion sociale apporterait 2 000 €. La direction régionale des affaires culturelles, 2 000 aussi. La région PACA, 3 500 €, et le conseil départemental de Vaucluse, 6 000 €, donc ce qui nous resterait effectivement 5 646 € à charge, pour un total de 20 136 €. Et le second, ça concerne Combefiole. Vous savez qu'au bas de Combefiole, on a un certain nombre de cabanes dont les murs sont en élévation sur 1 mètre 50 €. C'était le lieu d'un chantier de jeunesse, un chantier de jeunesse qui était l'endroit où l'on regroupait les jeunes pendant le second conflit mondial de manière à les avoir quand même un petit peu sous la main et à éviter qu'ils aillent au maquis où certains sont allés d'ailleurs après. Et donc dans ce secteur, il y avait un camp, il y a 27 cabanes, on les a dénombrées dernièrement. Il y a aussi un amphithéâtre de pierre qui commence à se dégrader sérieusement, où avaient lieu certainement les cérémonies au quotidien. Donc on voudrait le réhabiliter. Donc c'est un chantier qui est sensiblement de même montant, 18 938 €, qui serait donc financé par une participation des jeunes de 2160, 2 000 de jeunesse, sport, cohésion sociale, 2 000 de la DRAC, 3 000 de PACA, 6 000 du département de Vaucluse et 3 778,02 € de notre part. Donc je vous demande de bien vouloir m'autoriser, bon, en autoriser le principe bien sûr, de donner un avis favorable à ce plan de financement avec la part CME, et bien sûr de solliciter auprès du conseil départemental de Vaucluse une subvention de 6 000 € pour la Coanche et 6 000 € pour la Combefiole, de m'autoriser ou tout adjoint faisant fonction à signer toute pièce relative à cette délibération, et donc de dire que les crédits sont prévus au budget annexe 2017 de l'exploitation forestière, bien sûr. Voilà. Des questions ? Oui.
Ça ne fera pas une saison ?
Normalement, oui, Denis, on a prévu de faire en une saison, ça. Oui, on aura plusieurs chantiers. Mais je pense aussi, normalement, ce qui est prévu, Denis, c'est qu'on ait des groupes d'adultes.
Oui.
Voilà, au-delà des groupes de jeunes que vous rencontrez habituellement, que nous hébergeons à la piscine, là, qui partagent leur temps en droit tourisme. Oui.
Ils peuvent s'associer, ça.
Bon, c'est pas très compliqué.
Non, mais sinon, des groupes d'adultes bénévoles qui restaurent des...
Ça appelle, là, on serait avec un encadrement. Mais c'est vrai qu'on pourrait mettre en place... ça, j'avais pensé pour faire différents travaux, comment dire, collectifs. Crillon, par exemple, de temps en temps, organise un chantier... Un chantier. On l'avait fait quand on avait réhabilité la colline Saint-Antonin et les plantations. Vous vous en souvenez ? Ouais. Enfin, là, on est dans un cadre structuré. Y a-t-il des observations particulières là-dessus ? Non, je le mets aux voix. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le syndicat d'électrification vauclusien, Michel, modification des statuts, s'il te plaît.
Tout à fait. Alors, par délibération du 14 décembre 2016, le comité du syndicat d'électrification Vauclusien, la SEV, a adopté la modification de ses statuts. Cette modification concerne d'une part l'objet du syndicat qui peut désormais se voir confier par une collectivité membre un mandat pour des opérations liées à l'éclairage public, d'équipement sportif ou de bâtiment, ainsi que la coordination des travaux d'enfouissement, d'autre part la composition du syndicat avec la création d'un nouveau collège. Sur ce, j'ai sauté sur l'occasion pour demander une étude gratuite sur l'éclairage public du village de Védruy. Un résultat. Conformément aux articles L5211-17 et L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit se prononcer dans un délai de 3 mois suivant la notification des statuts modifiés. Cette dernière est intervenue le 22 décembre 2016. Vu le projet de statut, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable au nouveau statut du syndicat d'électrification Vauclusien.
Très bien. Bon, ben là, pareil, hein, c'est une décision qui nous échappe un peu. Des questions là-dessus ? Ouais, donc, vous voyez, c'est une extension des compétences. Alors, c'est quand même encore assez surprenant, justement, qu'avec cette loi NOTRe, la loi NOTRe, elle prévoit à terme la disparition. Alors, je veux dire, à tort ou à raison, je ne juge pas sur la pertinence, simplement sur la procédure. On prévoit justement qu'il y ait une montée en charge des intercos, là, pratiquement tout devrait revenir. Et là, de la même manière, on autorise des prises de compétences, ce qui fait qu'on se trouvera fatalement à un moment donné dans le même conflit que ce qu'on avait à une époque, par exemple avec le syndicat mixte et Rhône-Ventoux. Et vous vous souvenez, enfin, certains s'en souviennent, quand il s'est agi d'amener l'eau au chalet Reynard, il y avait un projet qui était porté, alors au départ, par le syndicat mixte qui venait, où l'eau venait de Sceaux. Patrick, tu me reprends si je me trompe. Le projet a été abandonné, puisqu'à un moment donné, il y a eu une suppression de compétences, une unicité de... un monopole de la compétence, si vous voulez, qui a été attribué à un syndicat donc, dont la spécialité était l'eau et l'assainissement, le syndicat Rhône-Ventoux. Le projet a été abandonné et l'eau, finalement, sur un projet instruit par le syndicat mix, est montée depuis les Bruns. C'est-à-dire qu'on n'a même pas utilisé les documents qui avaient été faits par le syndicat à l'époque. Là, je vous dis, et là, on risque de se retrouver à nouveau sur des chevauchements. Qui va prendre tel chantier ou autre, ça appartient à qui et... Bien, mais écoutez, je le soumets à vos voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La convention temps libre. Alors,
situant au dispositif des chèques loisirs, la carte temps libre a pour objet de permettre aux familles locataires modestes d'accéder à l'offre de loisirs de proximité sur la commune, portée par des structures habilitées par la direction départementale de cohésion sociale. La carte temps libre est une aide à la famille et s'adresse aux enfants de 3 à 18 ans. En fonction de son quotient familial, la famille est destinataire d'une notification de droit dont le montant est valorisé chaque année pour chaque enfant comme suit. 136 euros pour un coefficient familial compris entre 0 et 230 euros. 104 euros pour un coefficient familial entre 231 et 305 euros. Et 72 euros pour un coefficient familial compris entre 306 et 400 euros. En fonction des allocataires y ayant droit, une enveloppe annuelle financière est déterminée et abondée à hauteur de 50% par la commune et 50% par la CAF. Pour 2017, le montant de l'enveloppe financière s'élève à 2000 euros. Et l'engagement de la commune porte donc sur 50%, soit 1 000 euros. La commune et la CAF de Vaucluse procéderont chacune, en ce qui les concerne, au versement de leur participation financière directement auprès de l'association ou au service organisateur. Vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant à la convention à intervenir entre la CAF et portant sur le dispositif carte temps libre, d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier et de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2017.
Très bien. Voilà, carte temps libre qui est un nouveau dispositif qui remplace le... Comment il s'appelait le précédent ? Le chèque loisir. Voilà, on a connu. Bien, des questions particulières là-dessus ? Non, je le soumets donc à vos voix. Donc, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Oui, hein, je vous rappelle que là aussi, ça fait partie des actions menées par la commune au service de nos ressortissants, puisque c'est 50% que nous prenons. Très bien. Bien, nous avons donc terminé avec l'ordre du jour. Je vous soumets...
Non, non, non. Cadre, 22.
Ah, oui, c'était pas intéressant ça. Monsieur Petit.
C'est bon.
Le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse a décidé de la mise en place du convention cadre qui conseille en organisation des ressources humaines et statutaires à destination des collectivités. Le centre de gestion propose un accompagnement autour de plusieurs axes, audit d'organisation, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, aide à la réalisation de documents RH, études juridiques, aide au recrutement, etc. Afin de se réserver la possibilité de souscrire aux différents services en cours d'année, en fonction des besoins de la collectivité, il est proposé la signature de la convention pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. La commune pourra saisir les services du CDG au moyen d'un formulaire d'adhésion pour la prestation considérée. Vu le projet de convention, vu la grille tarifaire, considérant l'intérêt d'avoir recours aux compétences et à l'expertise du CDG dans certains domaines et dossiers spécifiques, il est demandé au conseil municipal d'adhérer à la convention cadre proposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse, d'autoriser M. le maire à signer la convention et de souscrire par décision aux différentes prestations et au regard des besoins de la collectivité.
Très bien. Donc, là aussi, c'est le CDG qui propose des... Le centre de gestion, vous le connaissez, c'est la structure donc, départementale qui gère la carrière de nos agents, des agents des collectivités territoriales. Et donc, au-delà de cette gestion des passages en commission ou autre, bien, ils offrent un autre panel de services. Après, libre à nous d'y adhérer ou non. Bien, y a-t-il des remarques particulières là-dessus ? Non. Je le soumets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons donc terminé l'ordre du jour, véritablement. Hormis que je dois vous faire part de l'état des décisions du troisième trimestre, donc j'ai pris en fonction des délégations que vous m'avez confiées. Vous les avez parcourues certainement. Vous voyez que nombre d'entre elles concernent des non-préhensions, et puisque vous savez que la commune, lorsqu'il y a des ventes, en particulier dans les zones U, pourrait se porter acquéreur hein, pour des raisons diverses. Ensuite, bon, il y a du périscolaire. Voilà, quelques maîtrises d'œuvre pour, par exemple, l'église ou présentation peinte de la forêt. Juste une petite indication. Moi, ça m'a quand même interpellé le fait qu'il y ait beaucoup de décision du maire en non-préemption, ça veut dire quand même que notre commune est active en ce qui concerne le marché immobilier, que ça bouge beaucoup, mais d'ailleurs on s'en aperçoit, ça rejoint le fait que quand on fait l'accueil des nouveaux résidents, on est 60 à 65 familles. Ça signifie pas toutes les fois que c'est une nouvelle maison qui se construit, mais c'est qu'il y a un turnover dans la population. Alors, si ça présente, il faut savoir aussi que nous, la commune, on perçoit ce qu'on appelle des droits de mutation, hein, et que le fait qu'il y ait beaucoup de mouvements, mais ça fait que cette année, nous avons pu avoir une recette de 120 000 euros, alors que nous en avions prévu 85. C'est, me semble-t-il. Donc ça veut dire qu'il y a, après, qu'est-ce que ça signifie par ailleurs ? Je n'en sais rien, mais en attendant, ça c'est un constat que l'on peut faire. Voilà. Nous tenons, donc j'en informe et j'y invite le conseil municipal, une réunion pour la forêt avec Madame Clavière le 22 janvier à 16h30. Février aussi. C'est bien. à 16h30. Donc on aura là les principaux acteurs. On a commencé à y travailler. Bon, on a eu un petit contretemps préjudiciable la semaine passée. Voilà, mais donc j'espère qu'on arrivera tous ensemble à monter une belle fête. Mais je ne vous cache pas que la recherche de subventions cette année et d'aide est plus compliquée que ce qu'elle avait pu l'être il y a 4 ans. Voilà, s'il n'y a pas d'autres déclarations ou interventions, je vous remercie de votre présence, de votre assiduité.
Ah, pardon. Oui. Au sujet de la fête de la forêt, il y a eu une réunion, nous n'avons pas été invités.
Oui, on avait fait une première réunion de cadrage. Et je me doutais, effectivement. Et là, maintenant, on va être dans les propositions réelles. Et donc, ça signifie que là, normalement, on devrait même être au stade de l'engagement et des uns et des autres.
Ouais. J'ai une autre question.
Ouais.
Au sujet du parc.
Oui.
On a rempropos de ton discours. Au sujet de la nouvelle, je ne sais pas ce qui va se passer, il y a un médiateur qui a été nommé par la région. Ce médiateur, il va faire quoi? Il va à nouveau interroger les communes? Est-ce que vous avez reçu des courriers à ce sujet?
Dans la lettre de mission que lui a faite le président Estrosi, donc il vient sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'esprit, on va dire, j'ai pas les termes exacts en tête, mais enfin, voilà, pour rencontrer les gens de terrain. Alors, je vous dirais que, personnellement, mais j'attends toujours, et j'ai eu une réunion dernièrement, à un autre sujet, on avait pratiquement tous les maires du secteur, à ce jour, donc, il n'a rencontré aucun des élus de terrain, enfin, de ceux qui étaient là, on était au moins une douzaine, une quinzaine de maires. Je sais qu'il a rencontré le président du SMAEL, certainement le député, puisque il faut pas se cacher les choses. Bon, c'est bien que si ce préfet est là, donc c'est qu'il y a bien eu un ordre de mission qui a été donné au niveau régional. Hein, donc on sait bien qu'il y en est à l'initiative, donc ils ont dû en parler. Le président de l'Interco a été, Francis Adolphe, a été contacté, mais on n'en sait pas plus.
Parce qu'au cas où ils viennent sur la commune de Bédouin, ça serait bien que l'ensemble du conseil municipal soit invité.
Et pourtant,
c'est une demande de notre part.
C'est une demande.
Jean-Forêt, ce que tu voudras.
Non, pas Jean-Forêt, ce que je voudrais. Monsieur le préfet Michel Sapin, bon, un homonyme de notre plus célèbre, donc prendra la décision qui l'intéresse. Mais dans l'hypothèse où il me contacterait, je pourrais lui demander, mais à ce jour.
Non, mais dans l'hypothèse où il vienne, où il y ait une question de proposer au maire de Bédouin, je ne sais pas comment ça va se passer.
Bon, ils ont envoyé un questionnaire pour faire un état des lieux, un cadrage. Et a priori, il doit contacter les gens, mais je te dis, c'est rien à ce jour. Pas de rendez-vous. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je vous souhaite donc une bonne soirée.
Merci.
Et à bientôt. Si vous souhaitez vraiment rafraîchissez-vous. La séance est close à 20h. Nous sommes le 30 janvier 2016.